Mémoire vive,
présentée par Perrine Carvran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Un cahier d'écolière, c'est tout ce qui restait de la courte vie de Suzy Felsberg, un cahier bien à l'abri dans le tiroir d'un buffet d'une ferme du sud-ouest de la France. Un cahier conservé depuis les années de guerre, un cahier dont on ne sait pas trop comment il est arrivé là. Guillaume Rébaud est photographe, il a retrouvé ce cahier et a voulu retracer l'itinéraire de Suzy Felsberg, de sa naissance à son assassinat à Auschwitz. Pris par son sujet, il en a fait un film, au rythme de son voyage à travers l'Europe, un documentaire dont il vient nous parler aujourd'hui. Guillaume Rébaud, bonjour.
Bonjour.
Alors au départ de votre film, vous racontez qu'en tant que photographe, vous avez beaucoup travaillé autour de la Shoah, notamment des Einsatzgruppen. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer un peu comment justement vous en êtes venu à travailler sur ce sujet et comment vous en êtes venu à le recroiser presque par hasard, ce sujet.
Très simplement, j'étais reporter de presse et j'ai suivi un voyage, une visite à Auschwitz avec des lycéens. Et c'était un voyage d'une journée, donc assez rapide. Même si c'est assez fort pour eux, c'est assez rapide. Et moi, je suis rentré le lendemain en conférence de rédaction. On m'a dit textuellement, alors, c'était comment Auschwitz? Et là, tout de suite, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Je peux pas aller là-bas en simple visite. Et donc, j'ai commencé à m'y intéresser. Et ensuite, plus on comprend, plus on sait, plus on a envie de savoir pour essayer de démêler certaines choses. Et après, j'ai décidé d'y retourner seul, longtemps. J'ai passé 15 jours sur le site de l'ancien camp. J'en ai fait un livre qui s'appelle « Chaque printemps, les arbres fleurissent à Auschwitz », qui est une citation de Yankelevitch. Et là, j'ai commencé à comprendre beaucoup plus de choses. Quand on est sur les lieux, on a cette distance et cette proximité à la fois avec ce qui a pu être, tout en gardant quand même une réflexion contemporaine. Et ensuite, j'ai continué à m'intéresser à cette histoire. J'avais été bercé par quelques mots assez brefs et rapides, laconiques de ma grand-mère, quand j'étais jeune, sur la guerre en général, voilà, sans plus. Et après ce livre, j'ai décidé de m'intéresser à un pan d'histoire de notre pays un peu moins connu, ce sont les camps d'internement, où ont été enfermés beaucoup de juifs étrangers dans un premier temps et d'autres catégories d'indésirables, comme on les appelait. Et j'ai suivi l'itinéraire d'un homme qui s'appelait Gerhard Kuhn, où au gré de mes découvertes dans les archives, je me rendais compte qu'un assassinat à Auschwitz, ou en tout cas une déportation, n'était pas le fruit du hasard. Tout était quand même... on a cette impression, vu de l'extérieur, que c'est souvent un maelstrom, quelque chose qui s'enchaîne, les éléments du hasard. Alors qu'en fait, une déportation souvent est due à des décisions prises d'une manière administrative. Et donc j'ai concilié mon travail de photographe en retournant sur les lieux pour constater ce qu'étaient les lieux aujourd'hui, souvent des lieux effacés. Pas Auschwitz, où il reste quand même beaucoup de choses, du camp. Mais par exemple à Gurs, qui est un camp du sud-ouest de la France, un des plus grands camps de la zone dite libre à l'époque, un camp construit par les républicains espagnols, ont été internés des juifs du Pays de Bas, des Palatinas, en 1940. Et là, je trouve la trace donc, dans les archives françaises de Gerhard Kuhn, et j'ai retracé ces 5 années de déportation en retrouvant absolument tous les documents. Je commençais à comprendre que la photographie ne suffisait plus. Mais en alliant les deux et en travaillant avec Tal Brutman, un historien que je connais personnellement, j'ai décidé de faire ce livre pour mettre justement en exergue un itinéraire plus qu'une histoire générale. Et les choses continuent avec des rencontres. J'ai par la suite rencontré le père Patrick Desbois, avec qui j'ai participé pendant plus de 4 ans à ses enquêtes sur le terrain en Ukraine et en Biélorussie.
Oui, donc sur les traces des Einsatzgruppen.
Voilà, tout à fait. J'ai rencontré moi personnellement à ses côtés avec l'ensemble de l'équipe plus de 800 témoins de ces massacres. Donc j'ai passé de longs mois là-bas, j'ai fait 15 ou 20 voyages, où on approche ceux qui ont vu. On voit leurs yeux, on voit leurs souvenirs qui reviennent, et ce qui est très étonnant, c'est que on voit des personnes âgées qui nous reparlent de ce qu'ils ont vu enfant. Et ce sont des mots d'enfants qui ressortent dans leur bouche de vieillards, et ça c'est très 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 troublant, ajouté à la misère de l'Ukraine, parce que même si les grandes villes se sont développées évidemment, dès qu'on va dans les campagnes, on se rend compte de quelque chose, et ça c'est aussi pour les photographes quelque chose d'inhérent à notre travail, c'est qu'on se confronte au terrain. Moi j'ai cet avantage donc d'aller sur les lieux, et l'obligation même, et là on se rend compte, quand j'étais en Crimée par exemple, on est allé dans un village où même les routes n'étaient pas gredonnées, c'était à 70 km de Simferopol, les routes étaient boueuses, à peine pavées, et là à un moment je me suis dit mais les Allemands eux-mêmes ont fait ce chemin là pour aller chercher une famille au fin fond d'un village et la jeter dans un puits. Et le fait d'être sur les lieux exacerbe un petit peu le sentiment qu'on a par rapport à cette histoire.
Alors votre film, Guillaume Ribault, commence par des scènes tournées justement sur les lieux où les Einsatzgruppen ont massacré. Et puis ensuite, on arrive assez brusquement dans le sud-ouest de la France, où on voit votre famille, un paysan sur un tracteur. Comment vous avez fait ce lien entre votre histoire familiale, qui semble, dont vous n'avez pas tous les fils, visiblement, et puis le témoignage de ce qui s'est passé en Ukraine, dans ces pays de l'Est à l'époque?
J'ai pris le parti, ça a été une décision assez difficile, mais j'ai pris le parti de devenir moi-même le fil rouge aussi du documentaire, parce que je n'ai pas découvert qu'il y ait de Suzy par hasard, même si on peut le qualifier de hasard, mais néanmoins c'est 13 ans que je travaille sur la Shoah, donc c'est quand même un long chemin. Et je voulais parler de l'Ukraine parce que j'étais sensibilisé à cette histoire, et la Shoah c'est un panorama transeuropéen, ce n'est pas que on arrête des juifs le 26 août 1942, c'est beaucoup plus large, et voilà pourquoi moi je souhaitais donner cette dimension européenne à ce fait majeur du 20e siècle. Et j'ai été vraiment très sensibilisé, et comme je le dis un peu en introduction du film, je pense que Suzy, elle avait laissé des cailloux blancs, quoi.
Alors pour démarrer autour de ce documentaire, peut-être vous pouvez nous parler très concrètement de ce cahier, comment vous l'avez trouvé, et puis nous le décrire le plus possible pour que les auditeurs aient une idée de ce que c'est que ce cahier, un cahier très ordinaire, très banal, un cahier d'écolière.
C'est un cahier d'écolière, c'est ce qui à mon sens en fait l'universalité. Et comment j'ai découvert ce cahier, en fait, après avoir arrêté de travailler avec le Père Desbois, j'ai décidé de me recentrer un petit peu sur moi et sur mon histoire et les mots de ma grand-mère. Ma grand-mère m'avait dit « Tu sais, j'ai caché des enfants juifs pendant la guerre, et mon oncle et mon cousin ont été déportés à Auschwitz. » Elle me dit ça quelques temps avant de mourir. Ma famille n'est pas juive, donc j'étais déjà étonné que des membres de ma famille aient pu être déportés à Auschwitz. Néanmoins, donc, je suis parti sur avec cette idée-là, l'idée de me dire, tiens, est-ce qu'il y a un lien quelconque, historique simplement, pas communautaire, mais historique à travers cette histoire? Ça donnerait peut-être une explication que je n'ai peut-être encore pas, même si Suzy me l'apporte à travers son cahier, à mon intérêt pour tout ça. Et je suis allé dans le sud-ouest, d'où est originaire ma famille maternelle. Et là, après quelques recherches, j'ai effectivement découvert que l'oncle et le cousin germain de ma grand-mère ont été déportés à Auschwitz en tant que résistants. Il y a trois convois partis de France qui ont été directement envoyés à Auschwitz. Ils sont arrivés à Auschwitz au moment de l'extermination des Juifs hongrois en 1944, en mai-juin 1944. Donc ils ont été au cœur même de la machine. Et j'ai rencontré des témoins, parce que les gens de ma famille sont décédés, qui m'ont décrit ces scènes des femmes, des enfants qui arrivaient tout au long de la journée, et eux étaient entre les deux crématoires. Donc ils ont assisté à tout ça. Donc voilà, donc là il y avait quelque chose qui se passait. Et en enquêtant sur cette histoire familiale de déportation politique, je suis allé voir la femme de mon grand-oncle, le frère de ma grand-mère, Jean. Et lorsque je suis arrivé chez elle, elle m'a dit tout simplement, mais très textuellement, avec la manière dont on parle dans les campagnes, « Tiens, tu le veux le cahier de la petite juive ?» Voilà. Elle m'a dit ça comme ça. Donc là, j'ai pas compris, parce que j'étais pas vraiment au courant, à part les quelques mots de ma grand-mère, mais ma grand-mère, c'était une taiseuse. Hein, elle se rendait vite compte qu'elle en disait trop. moi aujourd'hui je subodore un peu quand même un trauma énorme à travers cette période-là. Et donc elle m'a dit, tiens voilà le cahier. Elle ouvre un tiroir d'un bureau en formica et elle sort ce cahier, un cahier banal, parce qu'un cahier d'écolière. Le cahier de Suzy, ce n'est pas un journal intime, ce n'est pas le journal d'Anne Frank. C'est justement parce qu'il est banal qu'il devient universel. Et le destin de Suzy, loin de le recentrer vers sa judéité, l'ouvre vers l'humanité entière. Nous avons tous eu un cahier d'écolière. Et à travers ces mots, à travers cette graphie, c'est un cahier presque, on dirait, de brouillon aujourd'hui, aux pages très fines. Mais l'écriture est soignée, la graphie est très belle, elle fait beaucoup de dessins, elle s'exprime dans un français absolument parfait. Alors que 2 ans auparavant, Suzy habitait à Vienne, en Autriche, et ne parlait certainement pas un seul mot de français.
Oui, et puis on voit des additions, des dictées, des rédactions, beaucoup de rédactions qui sont assez émouvantes, parce qu'on voit, on a un aperçu de ce qu'était sa cuisine, on voit qu'elle habite dans un tout petit logement. On a des textes qu'on lui a dictés sur le marché noir, le pain, voilà. Donc on est vraiment à la fois dans l'époque, et puis en même temps, c'est un cahier totalement banal, qui ne parle ni de la déportation, ni du fait que c'est une enfant qui a fui, qui se cache, dont les parents ont déménagé, changé de pays, je ne sais combien de fois dans l'intervalle. Donc c'est à la fois ce côté très banal et ce côté très tragique d'un cahier qui... Voilà, c'est le cahier d'une enfant comme les autres, mais qui a un sort qui ne sera pas du tout celui des autres enfants.
Oui, c'est une enfant comme les autres, et c'est la base de ma réflexion. C'est la force de ce cahier. On tend vers l'universel. Et les rédactions sont pour moi les plus émouvantes, parce qu'une dictée reste quelque chose pris sous la dictée, justement. Mais les rédactions où elle parle de sa cuisine, où elle dit qu'il y a une pendule, des nappes multicolores, où elle décrit un insecte, là elle prend l'idée du papillon, le papillon c'est un très beau symbole, où elle a des tournures de phrases magnifiques, les ailes aux couleurs multicolores, etc., etc. Et tout au long, j'ai utilisé dans mon film la voix de ma fille pour raconter justement ces rédactions qui émaillent le documentaire, parce que je voulais que le cahier soit au centre de tout ça. Le documentaire s'appelle effectivement Le cahier de Suzy, mais je voulais que le cahier soit un des personnages centraux de ce film.
Alors peut-être vous pouvez nous expliquer, Guillaume Ribaud, parce que ce film est aussi un road movie. On vous voit arpenter pratiquement toute l'Europe en voiture, avec votre appareil photo, avec le cahier, pour retrouver l'itinéraire, les traces de Suzy, de sa naissance à sa mort. Alors peut-être pouvez-vous nous raconter, alors bien sûr on ne pourra pas tout détailler, mais nous raconter l'itinéraire de Suzy, qui était un itinéraire assez emblématique de ce que les Juifs des pays de l'Est, de l'Europe, de l'Allemagne, de l'Autriche ont pu subir pendant la guerre.
Tout à fait, parce que le destin de Suzy permet de, en partant d'une histoire nominative, d'aller vers le général et plus loin encore à l'universel, parce que Suzy est née à Prague en 1931, le 7 janvier, parce que son père est représentant de commerce et a monté une petite entreprise à Prague, et ils sont juifs autrichiens de Vienne, et à un moment, en 1937, ils décident, après la naissance de Élise, sa petite sœur, qui est née en 1933, le 17 décembre, ils décident de retourner à Vienne. Et là, la grande histoire rattrape le destin individuel de Suzy, parce qu'arrive l'année 1938 avec l'Anschluss, la nuit de cristal, et c'est à ce moment-là que les parents décident de mettre leurs enfants à l'abri. Et Suzy est envoyée par les Kindertransport, des convois d'enfants qui partent en train dans divers pays européens, la plupart en Angleterre. Environ 10 000 enfants sont accueillis, et eux ont tous eu un destin plus heureux, puisque l'Angleterre n'a pas été envahie. Mais Suzy et quelques centaines d'autres sont arrivés en Belgique et d'autres en France, et pour eux, plus tard, quelques 2-3 ans plus tard, l'histoire les rattrapera dans les conditions qu'on connaît. Ils restent en Belgique, les parents arrivent quelques mois plus tard, Suzy et Élise passent par des différentes institutions, parfois catholiques, d'autres des institutions juives, des anciennes colonies juives, des sanatoriums. Les parents arrivent en septembre 1939, donc presque 9 mois après, elles ont passé 9 mois toutes seules, et là... On ne sait pas trop de documentation, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, ils sont aidés par les institutions juives de Belgique. Et l'histoire rattrape encore les Felsberg quand l'Allemagne est envahie, la Belgique pardon, est envahie le 10 mai 1940, où là Armin Felsberg, le père de Suzy, est alors considéré comme un étranger suspect. En tant que citoyen allemand, évidemment, oui. Donc, il était juif pour les nazis, il devient citoyen allemand suspect pour les Belges, et comme le disait Maxime Steinberg, un grand historien décédé il n'y a pas si longtemps, les Belges organisent la première déportation des juifs de Belgique. Et là, ils sont déportés vers le sud de la France, dans des convois, pendant plusieurs jours, mais que les hommes. Suzy, Elise et Frida, la maman, restent à Bruxelles. Et Armin, à ce moment-là, rentre dans le cercle des camps d'internement du sud de la France. Il passe par le camp de Loriol, ensuite par le camp assez dur du Vernet d'Ariège. Et là, à nouveau, l'histoire de Felsberg permet de donner une latitude assez large et intéressante au sort subi par ces populations, parce qu'il passe par les camps d'internement, ensuite par les groupements de travailleurs étrangers, c'est-à-dire qu'on peut sortir des camps, on est affecté pour travailler. Là, Armin en particulier est affecté au GTE d'Agen et travaille chez un particulier, Monsieur Ledoux, et il est jardinier. Et après, une autre décision de Vichy qui décide d'expulser les Juifs des grandes villes, et là, Armin va travailler dans un petit village, qui est le petit village de ma grand-mère, la fille de Surlotte. Et à un moment, et c'est la première date du cahier, c'est les seules dates que j'ai entre l'expulsion d'Armin plus son passage au Vernet d'Ariège, Suzy arrive en janvier 1942. C'est la première date. Donc on est sûr que la famille est réunie à partir de ce moment-là. Que se passe-t-il entre-temps? Je ne sais pas. Deux hypothèses. Soit il y a un regroupement familial organisé par une institution ou pas. Mais les historiens avec qui j'en ai parlé penchent plutôt pour un passage avec des passeurs, un passage illégal, puisqu'il fallait quand même passer la ligne de démarcation, ce qui n'était pas possible. Voilà, et on revient vers ma propre histoire. Armin travaillait dans la ferme à côté de chez ma grand-mère. Ma grande-tante a connu Armin, elle me l'a décrit comme un homme grand, mais qui marchait très courbé, qui pleurait souvent, etc. Donc c'était une interview assez émouvante autour d'une table que j'ai faite chez elle, une vieille dame de presque 90 ans qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et voilà, donc c'était assez émouvant. Et ensuite, le 26 août, dans ce même village de la fille de Charlotte, ils sont raflés. Et donc c'est pour ça que moi, j'ai choisi le road movie qui n'est pas un souhait cinématographique absolu que j'ai voulu faire, mais je ne voyais pas comment le raconter autrement. Aller sur la route, c'est comprendre. C'est l'éloignement permet de comprendre. Et comment peut-on mieux comprendre l'exil qu'en s'éloignant soi-même? Les conditions ne sont évidemment pas les mêmes, ce n'est pas ça. Mais vous savez, quand vous avez fait 15 heures de voiture, que vous passez la frontière ukrainienne, vous êtes loin et vous êtes dans une forme de faiblesse. Et ça permet d'être un tout petit peu plus réceptif à certaines choses, des détails insignifiants, invisibles même, et qui permettent de nourrir la réflexion, de nourrir l'histoire.
Alors ce qui est intéressant aussi, Guillaume Ribaud, dans ce film, c'est la façon que vous avez d'essayer de retrouver tout ce qui peut redonner un peu de chair, un peu d'unicité, d'individualité à cette histoire de la famille Felsberg et notamment de Suzy. Et il y a ce moment assez émouvant où vous retrouvez des archives du home d'enfants où elle séjourne en Belgique et une photo où on la voit, elle et sa sœur.
La photo, je vous assure, c'est un cadeau qui traverse le temps, qui était dans un dossier d'archives. Et quand on me l'a montré, c'était très, très, très bizarre, évidemment. Au-delà même de cette photo, sous cette photo, il y a ces empreintes digitales, parce que c'est un dossier d'étranger, donc on est dans une forme policière d'enregistrement administratif. Et Suzy écrit son nom, elle signe Suzy, il y a sa photo, une photo certainement découpée à l'époque pour des raisons d'économie. On faisait des photos de groupe et on découpait chaque photo, parce qu'on voit des gens un peu derrière elle. Et là, ce visage m'est apparu et oh, je ne veux pas employer de grands mots, mais j'ai quand même eu une réponse à pourquoi je faisais ça depuis si longtemps aussi, quand même. De voir cet enfant me regarder, et moi de la regarder, de voir la photo de sa petite sœur, parce qu'elle avait évidemment le même dossier, et de voir quelque chose de très émouvant sur le dossier de sa sœur, qui s'appelait Élise. Élise, pour signer, a écrit son nom En lettres bâtons, comme nos enfants le font. La première chose que font les enfants, même en maternelle, c'est apprendre à écrire leur nom. Et là, Suzy et Élise, Suzy, en fait, c'est son surnom parce qu'elle s'appelle Suze. Mais j'ai découvert dans un document tchèque que, en fait, les prénoms avaient été tchéquisés en Suzy et Lizzie. Et donc, Élise avait signé de son petit nom Lizzie. Et dessous, il y avait marqué en allemand l'enfant ne sait pas écrire. Et ça, oui, ça incarne ces quatre lettres, bâtons, incarnent pour moi parfaitement ces enfants.
Alors peut-être il faut évoquer les prolongements que peut offrir ce cahier. On voit donc dans votre film des enfants dans une école s'emparer de ce cahier. Alors on peut imaginer que ce cahier va servir à d'autres enfants et qu'il peut être un bon point d'entrée pour évoquer l'histoire de la Shoah avec des jeunes enfants.
Je l'espère, c'est mon souhait, c'est le souhait de plusieurs institutions et de plusieurs personnes. Nous sommes en train de réfléchir à comment utiliser ce cahier. D'ailleurs, depuis plusieurs mois déjà, une reproduction en fac-similé de ce cahier est utilisée à la maison d'Izieux, où des enfants, des collégiens viennent tous les jours visiter ce lieu emblématique de la mémoire nationale sur ce thème. Et les enfants font une étude, après avoir visité le musée, de différents destins, et ils étudient Suzy à travers ce cahier. Qui était-elle ? Le service pédagogie où travaille Pierre-Jérôme Biscara leur demande de décrire Suzy à travers ses mots, à travers ses dessins. Et souvent, les petites filles donnent de Suzy une image d'une élève studieuse, intelligente, espiègle, intéressée. Et là, l'idée forte et l'intuition que j'ai eue très rapidement et que les gens ont quand ils voient le cahier, c'est que ce cahier permet de parler de quelque chose qui est difficilement racontable à des enfants. Moi, ma fille, lorsque je lui ai montré le cahier la première fois, elle avait 9 ans à l'époque, j'ai dû lui expliquer l'histoire de Suzy, pourquoi je l'avais trouvée, elle voyait que ça me troublait, ma fille est très intuitive, elle me demandait, bon, voilà. J'ai essayé de lui raconter l'histoire, ça allait, et à un moment, on arrive à la déportation et à l'assassinat. Et là, je me suis rendu compte que je ne savais pas comment lui dire. À 9 ans, on ne raconte pas à une enfant cette histoire-là comme ça. Et j'ai trouvé des mots peut-être maladroits, je lui dis « Suzy a été assassinée ». Voilà, pour quand même essayer d'expliquer, et elle m'a regardé et elle m'a dit « Mais papa, on ne tue pas les enfants ». Voilà, c'est ce que m'a dit ma fille, donc je pense que ce cahier a quand même cette force de pouvoir la faire ressembler à tous et que tous se projettent en elle. C'est un cahier banal, nous l'avons dit au début de notre entretien, mais cette banalité, elle est, à mon sens, c'est la force de ce cahier.
Alors il y a peut-être une dernière chose qu'on peut évoquer avant de conclure cette émission, Guillaume Ribaud, c'est une des dernières scènes du film qui est comme un compte-rendu d'une vente aux enchères, la vente aux enchères des bagages de la famille Feldberg et notamment de la valise de Suzy. Et là effectivement vous parlez d'incarner les choses, cette simple liste ordinaire de vêtements, de mouchoirs, tout d'un coup on voit tout un quotidien extrêmement banal effectivement qui...
On voit un quotidien banal et ce document qui m'a été fourni par Alexandre Doulu, qui est un historien de talent, qui a travaillé sur la déportation des Juifs du Lot-et-Garonne, montre aussi quelque chose d'assez inconcevable chez nous. C'est-à-dire que les Juifs du camp de Casseneuil, où ils ont été regroupés après la rafle du 26 août 1942, ne sont pas partis avec leurs valises. Et donc ces valises, à un moment, ont été vendues aux enchères. Et ça me donne vraiment le vertige, encore aujourd'hui, de me dire des gens sont venus à l'adjudication, acheter, parce que la liste est terrible, hein. C'est 2 chaussettes, une veste d'enfant à planque, 100 francs, et d'ailleurs je lis dans le film pendant 30 ou 40 secondes, je sais que c'est un peu long, mais j'ai pris ce parti de lire le contenu de la valise de Suzy, et voilà, des mouchoirs, des culottes, des chaussettes... un tablier, des mouchoirs, des torchons. Et à la fin, même la valise est vendue. C'est-à-dire quelqu'un est venu, il a acheté la valise. Et oui, pour moi, ce document est me fait beaucoup de mal, en fait.
Merci encore, Guillaume Ribaud. Vous avez réalisé ce film, Le cahier de Suzy, un film que l'on ne peut pas encore voir, mais on peut en tout cas avoir un aperçu du cahier de Suzy sur le site internet lecahierdesuzy.com. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. 3 adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.